Donc, ils peuvent rester. On continue dans Romains, toujours chapitre 8. On termine ce chapitre 8 aujourd'hui. Vous avez proposé une série de 3 prédications sur ce thème-là. 3 prédications qui partent du verset 18 et qui vont jusqu'au dernier verset du chapitre 39. Ce matin, je vous épargne la relecture de quasiment la moitié du chapitre. On va relire simplement à partir du verset 31, donc la finale de ce chapitre 8. Et puis, voilà, on va voir ce que Paul veut nous enseigner. Je lis donc. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui, qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous. Comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec son Fils? Mais qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera alors? Personne, car Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il prie en notre faveur. Qui nous séparera de l'amour de Dieu, du Christ, pardon ? Est-ce la détresse ? Ou bien l'angoisse ? Ou encore la persécution ? La faim ? La privation ? Le danger ? La mort ? Comme le déclare l'Écriture, « À cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. » On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc le troisième panneau du triptyque, de la triple prédication, de la lettre de Paul à Rome, au 1er siècle. Donc cette fin du chapitre 8 concerne la question difficile de la souffrance du chrétien. Je résume un peu les deux épisodes précédents. Dans la première prédication, qui s'appuyait surtout sur les versets 18 à 26, Paul enseignait à propos de la vie éternelle. Cette vie éternelle qui est promise aux enfants de Dieu. Et il précisait que, pour lui, nos souffrances actuelles, et j'ajoute, qui sont bien réelles, qui nous révoltent à juste titre, qui sont proprement effrayantes parfois, et Paul de dire « elles ne sont rien lorsque nous les pesons sur une balance en face de la vie éternelle qui nous est promise. Okay. » Cette vie éternelle, nous précise-t-il, concerne également la création tout entière qui sera renouvelée et délivrée, comme nous, de la souffrance. C'est donc sur une nouvelle terre, avec nos corps renouvelés aussi, que nous vivrons pour toujours, en étant glorifiés à l'image de Jésus-Christ. Que signifie être glorifié ? Nous l'avions vu, être délivré de la corruption, du péché. La Bible dit assez peu de choses à ce sujet, mais elle dit clairement que tout ce qui nous sépare de l'amour de Dieu, tout ce qui nous sépare de l'amour des autres, et tout ce qui nous sépare de l'amour de nous-mêmes aussi, sera détruit. Guéri, purifié, consommé. Ainsi nous aimerons Dieu de tout notre être, nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes, et notre corps ne portera plus aucune marque du péché ou de la mort. Paul nous appelle à regarder cette vie future comme non pas une compensation de nos souffrances, mais comme le véritable accomplissement de notre vie. Dans notre deuxième partie, qui couvre les versets 26 à 30, on avait vu deux réalités de la foi chrétienne. La première qui affirmait que quand même nous souffrons au point de perdre le nord, de nous mettre à raisonner comme un tambour crevé, à ne plus prier du tout même, voire carrément lorsque nous sommes en colère contre Dieu, et on l'avait lu dans le psaume 88, eh bien l'Esprit de Dieu, qui est en nous, poursuit son travail malgré tout, malgré nous. Il comprend, compatit et intercède auprès de Dieu de la juste et bonne manière pour nous. Nous pouvons être au fond de la mer, perdus et impuissants, l'Esprit n'abandonne pas. Et la deuxième réalité que nous apprend Paul, c'est que le chrétien, habité par l'Esprit, voit son rapport à la souffrance être transformé. Si la souffrance détruit les humains la plupart du temps, et occasionnellement les rend meilleurs, le chrétien, lui, reçoit, dans la foi, que sa souffrance le conduira toujours à ressembler à Christ. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit Paul. Ainsi, comme l'on fait du recyclage en revalorisant ce qui n'a pas de valeur, Dieu utilise notre souffrance, qui est pourrie, pour en faire pousser en nous sa gloire. Cela ne veut pas dire que la souffrance devient une bonne chose et que c'est cool de souffrir avec Jésus. Cela veut dire que nous ne pouvons garder l'espérance de la traverser, d'aller de l'autre côté et d'en ressortir vainqueur. Et que verrons-nous donc aujourd'hui d'après le texte que nous avons vu ? Nous allons voir la détermination de Dieu à nous sauver de ce monde de souffrance et de péché. C'est le point d'orgue de tout ce que Paul a dit jusqu'à présent, l'accord final de tout son argumentaire. Il veut nous convaincre de croire que ce que Dieu a promis, il va le faire. Il va le faire et qu'il est résolu à cela. Que dit Paul ? Il dit, que dirons-nous de plus ? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Dieu est pour nous. Littéralement, le mot grec employé pour vient de la même racine que au-dessus de. Hyper, ça veut dire au-dessus. Le sens de pour vient du fait que si Dieu est au-dessus de nous, il nous couvre. Il nous couvre. Il est au-dessus, il vient, il prévoit, il pourvoit, il prévient à ce qui se passe pour nous. Pour Paul, cela ne signifie pas que Dieu va écarter tous les obstacles de notre chemin, mais plutôt que le but que il s'est placé, la raison pour laquelle il s'est mis au-dessus de nous, cet objectif-là ne sera jamais manqué. Et pourquoi Dieu s'est-il mis au-dessus de nous ? Dieu est pour nous, afin que nous devenions semblables à son Fils, comme il l'a dit quelques versets auparavant. Et ce qu'il a, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. Dieu est pour nous. Ça veut dire que le nom de Dieu est invoqué sur nous. Et c'est exactement ce que l'on proclame lorsqu'on baptise quelqu'un, n'est-ce pas ? On le baptise au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Nous invoquons le nom de Dieu sur la personne. L'Église invoque le nom de Dieu sur la personne. Vous connaissez le cantique « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ?» Lorsqu'on baptise, on déclare de la part de Dieu et selon sa volonté que Dieu est pour cette personne. Cette déclaration sera fécondée par l'Esprit Saint de Dieu qui vient vivre en cette personne et lui ouvrir la bouche pour qu'elle dise « Tu es mon Père ». Dieu est pour nous. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Dieu a donné son fils pour qu'il puisse franchir tous les obstacles dressés par notre péché et qui nous sépare de lui. Qu'est-ce que veut dire Paul ? Imaginez, Vous avez 100 000 euros et vous les mettez dans l'achat d'une maison. Mais pour y vivre, il va falloir faire encore 12 000 euros de travaux. Mais bon, vous avez déjà mis 100 000 sur la table. 12 000, c'est pas rien. Mais ça vaudrait le coup d'aller au bout du projet et de les sortir pour pouvoir vivre paisiblement dans cette maison. Maintenant, imaginons que l'achat ne coûte pas 100 000, mais que vous mettiez 300 000 euros. Bon ben, ajouter 12 000, comparé à 300 000, ça commence à devenir bon, plus simple, quoi. Comparé au prix d'achat. Mais si nous poussons encore le bouchon jusqu'à 1 million d'euros, allez, un 50 mètres carrés à Paris. Oui, j'ai regardé. Alors là, il faut mettre 12 000. Bon, vous en êtes à 1 million. Vous allez les mettre. Enfin, c'est plus rien. Ça, c'est rien, 12 000 par rapport à 1 million. Une goutte d'eau dans le projet. Vous voyez, plus ça nous coûte cher par rapport à l'argent qu'on a investi, moins cela paraît raisonnable de continuer de payer. Mais à l'inverse, si la somme engagée de départ est très importante, bah les petites sommes qui vont s'ajouter après, bah elles ne pèsent rien comparées à la valeur. Imaginez, voilà, vous avez une voiture à réparer, et là, le coût de la réparation vous coûte presque aussi cher que d'acheter une bonne occasion, voire une voiture neuve. Bon, bah vous hésitez avant de faire la réparation. Mais si la réparation vous coûte un peu moins cher que d'acheter... Si au contraire la réparation coûte quasiment rien par rapport au prix du neuf, bon ben vous la faites parce que ça vaut le coup de garder la voiture. Alors il y en a qui vont réparer des voitures même irréparables parce qu'ils sont sentimentales et qu'ils sont attachés à leur véhicule. Ils ont une relation d'amour avec leur voiture et ils veulent la sauver à tout prix. Mais du coup, c'est la valeur sentimentale qui justifie le coût de la dépense. Ça va, c'est clair ? Mais Paul dit la même chose à propos de Jésus et de Dieu. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous fera-t-il pas totalement grâce avec lui ? Dieu qui devient humain pour accomplir le salut jusqu'à la mort de la croix, c'est son investissement pour te sauver, pour me sauver. Cela ne chiffre même pas en milliards de milliards d'euros. Le nombre d'étoiles du cosmos ne s'approcherait pas non plus du prix de cet investissement. Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. On peut imaginer la rançon d'un homme politique, celle d'un président, d'un roi, ou d'un mec comme Elon Musk qui pèse 263,8 milliards de dollars. Mais le sacrifice de Jésus, à combien s'élève-t-il ? Le souffle créateur du cosmos. Il est ineffable. Ineffable, c'est un mot qui sert à dire que les mots ne marchent plus. Ce qui est ineffable ne peut pas être dit avec des mots. Le sacrifice de Jésus est ineffable. Alors, par le don de Jésus, Dieu a investi en nous pour nous racheter, pour nous sauver. Mais il reste quelques travaux de rénovation à faire. Ah, oui, il y a tel péché qui revient un peu comme de l'humidité à chaque hiver. Oui, puis il y a cette blessure d'enfance qui ne guérit pas, comme un espèce de défaut d'entretien de la maison qui date d'il y a au moins 20 ans. Puis il y a ce handicap physique qui pèse sur la vie, comme un défaut de conception de la maison même. Tel mensonge que l'on croit, malgré tout ce qu'on a reçu, et qui est comme une fondation instable. En fait, il faudrait faire des travaux de réparation malgré le prix exorbitant qui a déjà été payé. Mais toutes ces choses sont comme des coûts supplémentaires, et on va prélever encore dans la grâce donnée par Dieu. Car cette grâce, elle a un prix, elle a coûté à Dieu. Mais Paul conclut, vu le prix que Dieu a déjà mis sur la table pour vous racheter, pour nous racheter, je vous garantis que il sera prêt à assumer toutes les autres dépenses qui suivront le rachat de vos vies. Il continuera de nous combler par ses grâces. Il continuera de nous combler par ses grâces pour nous apprendre la sainteté. Comme Paul le dit en Tite, par la grâce, nous apprendrons la sainteté. Sa détermination est sans mesure, tout comme son investissement en nous. Et je vous avais dit, il y a deux raisons pour lesquelles on peut réparer une bagnole. Un, parce que la réparation ne coûte pas très cher par rapport au prix, la valeur réelle de la voiture. Et la deuxième raison, c'est quoi ? Ah, si on aime trop la voiture. Mais dans votre cas, c'est les deux. C'est les deux. À la fois, le prix qui a été mis sur la table justifiera toutes les dépenses qui vont suivre. À la fois, vous êtes précieux. Vous êtes précieux à ses yeux. Et il vous aime. Alors, vous avez une valeur sentimentale pour lui qui justifiera encore plus toutes les dépenses. Dieu ne compte-t-il pas chaque cheveu de votre tête ? Alors il nous aime, nous, il veut nous appeler ses enfants. Alors oui, il nous donnera toute la grâce dont nous avons besoin pour devenir semblables à Jésus-Christ. Je relis. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute grâce avec lui? Alors peut-être parfois dans votre vie, vous vous dites, j'abuse à demander ceci à Dieu, j'abuse à demander cela à Dieu. Vous n'abusez de rien dans la mesure où vous prenez toutes ces choses-là pour continuer à chercher à ressembler à Jésus. Vous pouvez abuser autant de fois dont vous avez besoin pour retourner à Christ. Vous ne serez jamais à court de grâce de sa part pour puiser en lui, pour lui ressembler sans cesse, pour revenir, pour vous repentir, pour recommencer une cent et unième fois cet engagement que vous n'arrivez pas à tenir. Parce que sa détermination est sans faille. Et la suite du texte développe ça, en fait. Paul développe ce que Christ a fait pour nous. Qui accusera les élus de Dieu ? Hein ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? C'est Dieu qui les déclare justes. C'est Dieu qui les déclare justes. Ça ne vous arrive pas des fois d'être agacé de voir nos hommes politiques ? Certains, pas tous, parce qu'il y en a qui sont bien. Mais certains, qui semblent échapper de manière assez miraculeuse à la justice. On n'est pas fan de ça, hein, mais on voit que ça marche, qu'il y a une justice entre copains qui fait que on croit à chaque fois qu'ils vont tomber, mais non, ils ne tombent pas, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que notre gouvernement, qui est de mèche avec certainement une partie de la justice, ils ont assez de pouvoir pour faire échapper des fraudeurs, des tricheurs à la justice des hommes, n'est-ce pas ? Et vous pensez que là-haut, notre Dieu, il n'a pas le bras aussi long ? On va échapper au jugement. Quand je dis échapper, ça veut dire qu'on ne sera pas condamné. Sera déclaré coupable. Toutes nos fautes seront reconnues publiquement. Mais la sentence sera déjà tombée sur Christ. Donc on va y échapper. Si nos politiciens arrivent à échapper comme ça à la prison ou à des grosses amendes, à nous rembourser un peu ce qu'ils nous ont pris, on peut faire confiance à Dieu, de faire mieux que eux. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui va les déclarer justes. Et pourquoi il va nous déclarer justes? Parce que Christ est mort, dit Paul, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Ah oui, donc il y a l'Esprit Saint qui prie en moi quand je suis même au fond du trou, et il y a Christ qui prie pour moi là-haut aussi. On a une sacrée équipe qui nous entoure quand même. Bon, alors si ce n'est pas notre péché qui va nous éloigner de Dieu, peut-être ce vont être les oppositions, les persécutions. Paul l'envisage aussi. Est-ce que ce sera la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la privation, le danger ou la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout au long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Et Paul dit, avec une incroyable certitude, si nous souffrons à cause du nom de Jésus, je vous le dis, frères et sœurs, nous ne serons pas éloignés de Dieu, mais nous traverserons par la victoire de Jésus. Une victoire, je le rappelle, qui n'est pas celle de quelqu'un qui domine ses adversaires, mais celle de quelqu'un qui reste attaché à Dieu, malgré les épreuves qu'on lui inflige. En tout cela, nous remportons la victoire la plus complète par celui qui nous a aimés, dit Paul. J'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni rien d'autre de ce qui a été créé dans les cieux ou sur la terre. Ni l'avenir, ni le présent, force d'en haut, force d'en bas. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Alors, est-ce que c'est impossible de perdre la foi? Ben, franchement, si vous avez reçu l'Esprit Saint de Dieu en vous, c'est impossible. Vous pourrez avoir des passages à vide, mais le Seigneur vous tient et rien ne vous séparera, pas de l'amour que vous avez pour Dieu. On sait tous notre amour pour Dieu, il est aussi fluctuant que la météo, mais de son amour pour nous, qui est aussi certain que le soleil qui va se lever demain matin. Ayant dit ça, je crois qu'il peut y avoir des personnes qui ont vécu dans l'Église, qui ont été chrétiens sans recevoir l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu des promesses de la part de Dieu, mais ils ne les attendent pas, ils ne les croient pas. Quelqu'un peut vous faire une promesse. Si vous n'avez pas confiance en lui, ça ne change pas votre vie qu'il vous ait fait une promesse. Il y a un neveu comme ça qui ne croit plus dans les promesses de son père, parce qu'il en a fait tellement, il n'a tellement pas tenu, qu'il peut bien en promettre une millième en plus, ça ne va rien changer. Oui, c'est cool papa, mais il n'attend rien. De la même manière, on peut avoir reçu les promesses de Dieu et ne pas les croire. Alors tout tourne autour d'une seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu? Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu en vous? Et le Seigneur nous a laissé deux choses pour ça. Ça s'appelle le baptême et la Sainte Cène. Le baptême, c'est le signe visible, cette marque invisible que Dieu veut donner à l'intérieur de nous. Celui qui est baptisé d'eau reçoit la promesse, l'engagement, la détermination de Dieu à lui donner le Saint-Esprit. Celui qui mange la cène, normalement pour manger la cène, on doit être baptisé. Il reçoit la confirmation que Dieu est en lui puisqu'il mange Christ et qu'il le reçoit en lui. Comment puis-je être sûr? On vacille, on doute, on n'est pas certain. Parfois, des personnes s'accrochent à ce baptême qu'elles ont vécu il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je me suis engagé pour Jésus. Arrête, mon frère. Arrête, ma sœur. C'est pas toi qui t'es engagé pour Jésus il y a 40 ans qui va te sauver. C'est Christ et sa détermination à vivre pour toi qui va t'assurer de la résurrection. Ne regarde pas ce que tu as fait il y a 10, 20, 30, 40 ans. Mais viens à la table de la Sainte Cène. Entends ce Jésus qui dit « Prends et reçois-moi tout à nouveau aujourd'hui. » Et plus besoin de dire « Il y a 30 ans j'ai fait ceci » ou « Il y a 30 ans j'ai fait cela » mais tu pourras dire « Dimanche dernier, Christ s'est donné tout à nouveau à moi. » Et si Christ est pour moi, par sa grâce, je vivrai. Par sa grâce, je vivrai. Je conclus donc cette série sur la souffrance et sur les épreuves. On souffre ou on souffrira. Et je peux même dire, pour tout le monde, on a souffert. Parce que ça, c'est la réalité de notre vie terrestre. L'homme naît, souffre et meurt. On l'évitera pas. Mais on vit une culture, on vit une société qui a honte de la souffrance. On vit dans une culture et une société qui nous fait croire que si tu fais les bons placements, les bonnes stratégies et les bons choix, tu pourras éviter la souffrance. Mais c'est un leurre et c'est un mensonge. Et qui marche parce qu'on a honte de notre souffrance. On se cache les uns des autres quand on souffre. On ne se parle pas les uns des autres de ce qu'on souffre. Philippe nous a rappelé qu'il y avait quatre piliers à la foi qui apparaissent dans l'église des Actes des Apôtres. La prière, la fraction du pain, l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle. Si on veut vraiment traverser ce monde de souffrance avec persévérance, je ne saurais que trop vous exhorter à apprendre à partager ces souffrances. Apprendre à nous reposer, nous appuyer les uns sur les autres. Et cela demande une grande sagesse. Grande sagesse. Une sagesse ancienne et terrible. Ça demande à ce qu'on apprenne à cela fermer quand on nous parle. À ne pas chercher à résoudre les problèmes des autres, mais à chercher à les entendre et à les écouter. À ne pas chercher à leur changer la vie avec un verset biblique bien placé, mais à simplement, avec patience et bienveillance, pleurer avec ceux qui pleurent, tout autant qu'on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Et dans tout ça, le Seigneur va nous inonder de son amour. Parce que c'est de ça dont on a besoin. D'être reconfirmé, rassuré, renforcé, enraciné, dans le fait que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et alors on va traverser. Le bateau ne va pas couler. Voilà. On va être chamboulé dans tous les côtés, c'est sûr, mais le bateau ne va pas couler. Et on a besoin de ça. Moi j'ai vu dans notre église que quand il y a quelqu'un qui vient au micro et qui souffre et qui raconte ce qu'il souffre avec le Seigneur, on est attiré par lui. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de savoir comment on fait. On a plus besoin de savoir comment on fait pour traverser la souffrance avec le Seigneur, plutôt que de besoin de savoir comment est-ce qu'on va réussir à éviter la souffrance. Parce que éviter la souffrance, ça ne marchera pas. Je suis en roue libre, là, il faut que je m'arrête. Oui, frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous faisons pour le Seigneur qui compte, c'est ce que lui fait pour nous. Ce n'est pas nos engagements envers Dieu qui vont nous conduire au salut, mais c'est bien ses engagements envers nous. Veillons les uns sur les autres et rappelons-nous ce que Christ a fait et fera pour nous, afin que nous traversions ce monde
chahuté, tout bouleguée, mais sauvée. Amen.